Il est mort Jim, lu par l'auteur, épisode 16, chapitre 3. Eduardo manifesta encore une fois le don de n'écouter que ce qui l'intéressait. Cela se passait dans la montagne. J'avais une camionnette à l'époque et avec Gertrudis et Julia, on allait chez mon compadre à Huancayo. Julia? Julia, notre fille. D'ailleurs, elle est comme moi, elle voit des choses. Il y eut un blanc, puis il reprit brusquement. Alors, c'était la tombée de la nuit. Au beau milieu de nulle part, j'ai vu un chien à côté de la voiture. C'était un grand chien, une sorte de chien-loup, mais blanc. Il courait à côté de nous. J'ai accéléré, un peu pour m'amuser, et aussi parce que les routes sont dangereuses près de la Oroya, et je ne voulais pas qu'il provoque un accident. Le kleps pouvait bien mourir si ça lui chantait, mais un accident en pleine nuit, à 4000 mètres d'altitude, il vaut mieux éviter. Et à l'époque, les enfants étaient petits. On n'avait pas de portable. J'ai accéléré. Tu te rappelles, Gertrudis? Et je vous ai dit, c'est bizarre. Le chien est encore à côté de nous. Julia a commencé à pleurer. Elle m'a dit, va plus vite, papa. Elle tambourinait avec ses petits poings sur la vitre, les yeux rivés sur le chien, dit sa mère. J'ai accéléré encore, et à chaque fois que j'accélérais, il accélérait lui aussi. Il a couru à côté de nous pendant au moins un quart d'heure, et chaque fois que je le regardais, il était à la même place, bien à côté de moi. Heureusement que nous n'avons croisé aucun véhicule. Il n'aboyait pas, il ne me regardait pas, il n'avait pas la langue qui pendait, il courait. Et tout à coup, il a disparu. Il a disparu, tu l'as semé. Non, à aucun moment je ne l'ai dépassé. Tout à coup, en pleine ligne droite, en pleine course, il a disparu. Son corps blanc s'est éteint dans la nuit. Fit. Il y a des chiens qui courent vite, remarquai-je. C'était un grand chien, il devait avoir de la résistance. Allons donc, Jim, un chien qui court pendant longtemps à la vitesse d'une voiture dans la montée de la Oroya, au bon milieu des Andes. Et qu'est-ce qu'il faisait là, si c'était un chien? Nous étions à des dizaines de kilomètres d'un village. Je connais très bien cette route, et je t'assure que je sais ce que je dis. C'est troublant, c'est vrai. Égayé par ses paroles et l'alcool, il enchaîna d'autres histoires. Une nuit, Julia, qui dormait à l'étage au-dessus, a senti qu'on lui touchait les cheveux. Et quand elle a ouvert les yeux, il y avait une petite vieille à côté d'elle qui se levait. Elle lui a souri, lui a encore touché les cheveux, puis elle a disparu. Elle l'a reconnue. Elle nous a dit qu'elle ne l'avait jamais vue, mais qu'elle n'avait pas du tout eu peur. Mais moi, j'ai vu quelqu'un une fois que je connaissais. Et c'était effrayant. Nous dormions, Gertrudis et moi. Tout d'un coup, il était 2h30 du matin, je m'en souviens bien parce que j'ai vu l'heure à la pendule de la cuisine quand je me suis levé, j'ai entendu qu'on frappait à la porte d'entrée. À l'époque, il n'y avait pas de mur extérieur comme maintenant. Les enfants étaient encore petits, il n'y avait pas autant de cambriolages. Mais évidemment, le pays était tenu. Morales Bermudez, ce n'est pas Ollanta Humala. Les coups à la porte d'entrée m'ont réveillé. Mais je ne savais pas si c'était dans mon sommeil ou en réalité que je les avais entendus. Une fois réveillé, je les ai entendus encore, réguliers, comme s'ils ne devaient jamais s'arrêter. Gertrudis s'est réveillée, elle aussi. Elle m'a dit, « Tu entends? Qui ça peut bien être à cette heure-là? Lève-toi, va voir ce que c'est. » J'y suis allé et je n'ai pas eu besoin de sortir. Depuis la fenêtre de la cuisine, j'ai vu une femme qui me regardait. Elle était appuyée sur ma camionnette que je garais toujours dans cette petite cour. Et cette femme, je la connaissais. Mes cheveux se sont hérissés sur ma tête. J'en ai vu des choses, mais je jure que ça a été la peur de ma vie. J'ai couru dans ma chambre et j'ai dit à Gertrudis, « Devine qui j'ai vu là devant la porte. » Sa femme confirma. Il était blanc comme un linge. Je ne l'avais jamais vu comme ça. J'ai dit, « Gertrudis, il y a ta mère dehors. » Elle m'a dit, « Impossible, tu sais bien qu'elle est à l'hôpital et qu'elle ne peut pas bouger. Il faut dire qu'elle était en fin de vie. Elle était soignée pour un cancer depuis des mois et elle allait mourir. C'était donc impossible qu'elle se déplace. » J'ai insisté, « C'était bien ta mère. Elle était en robe de chambre, comme dans les hôpitaux justement. Elle avait un foulard bleu avec des carreaux violets. » « Ah, tu vois bien que ce n'était pas elle, » me dit Gertrudis. « Elle n'a jamais eu ce foulard. » On s'est recouché. Le lendemain matin, moi-même, je ne croyais plus avoir vu ma belle-mère. 2 jours plus tard, on est allé la voir à l'hôpital. Elle allait très mal. Quelques semaines après, elle est morte. Elle ne pouvait donc pas s'être levée, effectivement. Mais les cheveux ont failli se hérisser sur ma tête une deuxième fois, parce qu'elle portait exactement le foulard que j'avais décrit. Et Gertrudis et moi, on ne pouvait pas connaître ce foulard, parce que les sœurs de Gertrudis venaient de lui acheter pour couvrir sa tête, devenue chauve, avec la chimiothérapie. Gertrudis était rentrée dans l'histoire, elle aussi, malgré ses réticences premières. C'est comme si ma mère était venue nous dire au revoir. Elle n'a pas choisi la manière la plus douce. Tu sais, dit-elle en baissant la voix pour que son mari n'entende pas, elle n'aimait pas Eduardo. Je l'imagine bien lui faire ce coup-là. Il n'avait rien entendu. D'ailleurs, il ne semblait plus nous écouter, son regard était fixe. Je pense qu'elle est venue nous dire au revoir parce qu'après sa mort, j'ai su que les employés chez elle l'avaient entendu balayer dans sa cour juste la nuit où elle est décédée. Ils ont entendu quelqu'un qui balayait très distinctement. Elle avait l'habitude de faire ça elle-même. Et les chiens n'ont pas aboyé. On dirait qu'elle voulait laisser les choses en ordre avant de partir. J'imaginais parfaitement la scène. Le fait que Gertrudis en parle lui donnait plus de crédibilité que si c'était Eduardo, qui semblait un conteur né, qui était pourtant resté étonnamment silencieux depuis quelques minutes. Nous nous retournâmes vers lui en même temps, comme saisis de la même surprise. Il était affaissé sur la table. On ne voyait plus son visage. Il avait dû s'endormir, à moins que... Gertrudis comprit aussitôt. Elle se précipita en s'écriant: « Je lui avais bien dit de ne pas boire autant. Il est en train de faire une crise diabétique. » Je m'approchai et l'entendis marmonner: « Je me sens mal. Faites quelque chose, par pitié. C'est grave, c'est grave. » Tout alla très vite. Il semblait qu'une piqûre administrée par sa femme n'aurait pas suffi pour qu'Eduardo se remette. Elle se débrouilla pour qu'un médecin vienne, qui fit le nécessaire. Une heure plus tard, Eduardo était au lit. Je faisais la bise à Gertrudis et rentrais chez moi.